l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, on va parler argent. Enfin, pas tout à fait, en fait. On va parler monnaie. Et oui, la monnaie, qu'elle soit sonnante et trébuchante ou numérique, reste l'instrument numéro un pour pratiquer les échanges, alors qu'elle soit monnaie d'État, crypto-monnaie du genre Bitcoin ou encore monnaie complémentaire comme celle que représentent nos invités d'aujourd'hui, car nous recevons deux membres de l'association EOL. EOL, c'est la monnaie complémentaire du pays de Brest. Il y a avec nous Myriam Nouriquet dans le studio. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Et Michel Tessier qui est par téléphone. Bonjour Michel.
Bonjour à vous.
Alors, c'est peut-être vous Michel qui allez nous raconter un peu l'historique de l'EOL, parce que vous, vous êtes bénévole dans l'association depuis longtemps, vous êtes même au conseil d'administration, c'est ça?
Alors, je n'y suis plus, mais j'y ai été 4 années, jusqu'à la fin de l'année dernière, même jusqu'au début de cette année. Et oui, si vous voulez, je vous dis deux mots sur l'historique. En fait, EOL est née en 2012. La monnaie locale du pays de Brest a été mise en circulation en 2012. Et au départ, c'était une création qui s'est faite sous l'égide de l'ADES, qui est le pôle de l'économie sociale et solidaire du secteur ici. Et elle a été portée plusieurs années par l'ADES. Et ensuite, en 2015, c'est devenu une association à part entière, l'EOL, parce qu'il y a une loi qui est passée qui sur l'économie sociale et solidaire et qui a souhaité que chaque monnaie locale soit portée par sa propre association pour plus de clarté, pour plus de que les choses soient plus sérieuses quelque part, voilà. Et donc, ça fait 10 ans que la monnaie locale EOL existe dans le pays de Brest. Alors, je rappelle que le pays de Brest, hein, c'est plusieurs communautés de communes et agglomérations du Nord Finistère. Donc, c'est un secteur qui va de Guisseny jusqu'au Conquet, en passant par Landerneau, et puis ça va jusqu'à la presqu'île de Crozon également.
Et le fou, où est la radio d'ailleurs?
Où est la radio, voilà, tout à fait. Donc, c'est un vaste secteur. Et voilà, jusqu'en 2019, l'association a eu pas mal de bénévoles pour l'aider, et puis avait des salariés. Il y avait d'abord une salariée, il y en a eu deux à partir de 2019, plus un service civique, et c'était pas trop pour faire fonctionner une monnaie locale, parce que ça demande quand même pas mal de gestion et pas mal de contacts avec les commerces qui participent, on en parlera sans doute tout à l'heure. Et puis en 2020, bah, il y a eu le Covid et on a tous connu l'arrêt brutal de l'économie. Et donc, une monnaie locale, c'est fondé sur le fonctionnement des commerces, de l'économie, des prestations de services. Et là, tout s'est arrêté, donc aussi pour la monnaie locale EOL. Et depuis, on a tâché de remettre à flot la monnaie locale pour qu'elle reparte, parce que ce serait dommage de la perdre. C'est important à notre époque, une monnaie locale. Et donc, ça, voilà, c'est en cours de redémarrage depuis plusieurs mois déjà. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Mais voilà déjà pour un petit peu l'historique d'EOL depuis sa création en 2012.
Ouais, et puis en plus, il faut peut-être ajouter qu'il y a eu une étape qui aurait pu être importante, enfin, c'est le passage au numérique, mais malheureusement, c'était juste avant la Covid, je crois, il me semble, non? C'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai que cette étape, c'était une étape fort importante. C'était courant 2019, ça aurait dû être plus tôt dans l'année, finalement, ce n'est intervenu qu'en octobre 2019. Et oui, c'est un petit peu l'époque qui a précédé le Covid de quelques semaines. Et du coup, ce lancement de l'EOL numérique, qui fonctionnait déjà donc avec des billets, ce lancement en octobre, par la suite, il a pas connu tout le succès qu'on aurait pu attendre, parce que donc en février, ça a été un gros coup d'arrêt. C'est dommage, parce que ce paiement par EOL numérique, hein, par une application qu'on charge sur son smartphone, on fondait beaucoup d'espoir là-dedans pour que beaucoup de jeunes s'approprient ce moyen de paiement, puisqu'ils ont tous ce réflexe-là de l'utilisation du smartphone, et puis aussi pour que beaucoup de commerces puissent plus facilement payer se payer entre eux, payer des fournisseurs, etc., pour des sommes plus importantes, puisque en liasse de billets, c'est bien, mais ça a ses limites quand même. Hein. Les cartons ou les valises de billets, c'est quand même pas toujours facile.
On voit, on imagine. Alors, je ne sais pas, peut-être, Myriam, vous allez nous faire le portrait de l'EOL actuellement. Enfin, combien il y a d'adhérents à l'association, de commerces qui l'utilisent, etc.
Donc, sur la situation actuelle, on est à 180 commerces adhérents sur tout le pays de Brest. Et on est à environ 1500 utilisateurs de la monnaie locale.
Donc ce sont des adhérents, en fait, pour utiliser la monnaie, on va y revenir, hein, mais ce sont les adhérents de l'association.
Oui, voilà. Et même si donc on disait que le paiement numérique n'a peut-être pas connu le lancement qu'on voulait, on a quand même plus d'EOL en versement numérique qu'en billets. Donc les derniers chiffres que j'ai, c'était janvier 2021. On avait 70 000 EOL en circulation en billets, mais 128 000 EOL par transfert numérique électronique. Donc il y a quand même eu un développement de cette application et je pense qu'il va continuer à être mis en avant. Ouais.
Et en termes de répartition des commerces et même des utilisateurs, c'est quand même, j'imagine, plus concentré en ville, c'est ça?
C'est plus concentré en ville, plus sur les grosses agglomérations, donc sur Brest, sur Landerneau, on a un peu plus de commerces adhérents. C'est des commerces par contre variés. On peut avoir dans la restauration, librairie, je sais qu'il y a un institut de beauté aussi sur Brest qui les prend. Donc il y a différentes possibilités ensuite de les dépenser.
Michel Tissier, sur ce portrait actuel de l'association et des utilisateurs, vous rajouteriez quelque chose?
Oui, c'est ce que Myriam a dit, ouais, ça correspond, hein, à ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des commerces dans la ville de Brest, évidemment, qui est la ville pôle du pays de Brest, mais il y a d'autres communes comme Landerneau, oui, qui voit pas mal de commerces utiliser l'EOL. Il y en a une dizaine ou une douzaine, il y en a eu plus à un moment. Et une des grandes tâches, justement, au sein de l'association, c'est d'entretenir le lien avec les commerces du réseau et de faire en sorte que non seulement ceux qui y sont y restent, parce que on entretient le dialogue avec eux, on répond à leurs difficultés éventuelles, et puis on montre que l'association est bien vivante et qu'elle fait la promotion de ce mode de paiement, donc ça leur amène des clients. L'idée, c'est toujours d'essayer de gagner d'autres commerces à la cause de cette monnaie locale pour élargir l'offre. Et pour que les gens en entendent plus parler et qu'ils aient un petit peu moins besoin de changer leurs habitudes pour s'en servir. Parce que ce que nous disent les gens souvent, c'est que « Ah mais oui, les commerces qu'il y a sur votre liste, moi, ce n'est pas ceux que je fréquente. Donc j'aimerais bien que vous y incluiez tel commerce, le pro qui est à côté de chez moi, ou la librairie qui est à côté de chez moi, ou le café, ou le restaurant où je vais régulièrement. » C'est vrai, c'est des choses auxquelles on essaie de répondre. Et en même temps, on demande aussi aux gens d'aller vers ceux qui sont déjà dans le réseau et d'essayer à l'occasion de les fréquenter, parce que c'est un petit peu aussi ça le but d'une monnaie locale, c'est de faire découvrir d'autres offres et d'autres personnes, d'autres façons de faire du commerce. Voilà, je pense aux épiceries, par exemple, où quand on n'a pas l'habitude, quand on se rend dans une épicerie du type de celle qu'on a dans le réseau, eh bien, on achète beaucoup en vrac, on achète beaucoup sans emballage, on prend du coup l'habitude de ce genre de pratique, on vient petit à petit avec ses propres emballages, parce qu'on n'a pas forcément, au bout d'un moment, envie de ramener trop de sacs en papier chez soi. Donc, ça oblige à revoir un petit peu ces pratiques, et c'est ça vraiment le but d'une monnaie locale sur sur l'aspect commerce, quoi, hein, et sur l'aspect course du quotidien.
Oui, parce que là, on en arrive en fait petit à petit au fonctionnement. Enfin, on va peut-être, Myriam Nourri, vous allez peut-être nous rappeler un peu le fonctionnement, parce qu'en fait, c'est ça, on se dit, bah, pourquoi faire une monnaie locale, quoi. Donc, comment ça fonctionne et puis justement, quels sont les intérêts derrière?
Donc, justement, le point clé, c'est le côté local. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une monnaie qui est spécifique à un territoire, à une zone géographique. Donc, ici, pour nous, le pays de Brest. Et on a donc des commerçants qui vont être adhérents et qui vont accepter cette monnaie. Donc c'est une monnaie, comme vous avez dit au début, aussi complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est en parallèle de l'euro.
Donc c'est un euro, un éole.
Voilà,
un éole
est égal à un euro. Et donc, quand on va d'abord, si on est consommateur, on va échanger des euros contre des éoles, et ensuite on va pouvoir justement aller acheter dans les commerces qui l'utilisent, qui l'acceptent, pour justement favoriser, comme l'a dit aussi Michel, d'aller vers les commerces de proximité pour accroître le commerce local. Et également, ce qui est intéressant aussi à mettre en avant, c'est que les euros qu'on a donnés donc à l'association en contrepartie des éoles, ils sont déposés dans une banque, la NEF, et c'est ce qu'on appelle un fonds de garantie, qui veut dire que le montant des éoles en circulation est bloqué sur un compte en banque. Mais surtout, cette banque, elle s'engage à investir le double de la somme dans des projets locaux.
Oui, c'est ça, c'est une banque qui est assez atypique, NEF, il faut bien dire ce qui est. Et sinon, en tant qu'utilisateur, quand on veut, donc une fois qu'on a adhéré à l'éole et qu'on veut échanger ses euros contre des éoles, où est-ce qu'on va, quelles sont les banques à éoles?
Ah oui, donc il y a plusieurs possibilités. Il y a possibilité d'aller à ce qu'on appelle des comptoirs d'échange, donc c'est certains commerces qui acceptent justement de faire l'échange entre les euros et les éoles. On a aussi possibilité de mettre en place un versement automatique, c'est-à-dire que tous les mois on est prélevé d'un montant et en contrepartie on reçoit un montant d'éole papier. Et également on peut, ce qui peut être le plus simple aussi sur l'application, mettre en place là aussi un versement automatique. Tous les mois on a 50 euros de débiter et on a un crédit sur cette application de 50 éoles.
Donc il faut, pour utiliser l'éole numérique, il faut télécharger une application.
Oui, c'est une application, oui.
Qui s'appelle comment? C'est Michel.
Grande
qui
question.
Va, Michel va nous dire.
Je l'ai, mais je ne sais pas son nom.
Vous savez comment s'appelle l'application, Michel Tessier?
Ah, à ma connaissance, elle s'appelle l'éole, oui.
Oui.
J'ai pas d'autres noms en tête. Ouais,
tout simplement, quoi.
Oui, je pense que tout simplement, c'est ça.
Ouais. Donc, en fait, voilà. Il existe des monnaies complémentaires qui sont fondantes, par exemple, c'est-à-dire qui perdent de la valeur au fil du temps si on les utilise pas. C'est le cas de l'éole ou pas?
Non, c'est pas le cas. Au début, je crois que ça a été le cas de l'éole, mais après, ça a été supprimé. Donc, elle est plus fondante. Elle perd pas de valeur. Par contre, si on est particulier, on ne peut pas les reconvertir en euros.
Ah oui.
Il n'y a que les professionnels qui peuvent refaire une conversion d'éole en euros qui ont un petit taux de reconversion.
Ah oui, c'est-à-dire qu'ils perdent un petit peu.
Oui,
enfin, s'ils ont des éoles et qu'ils ne les ont pas dépensées, les commerçants, et qu'ils veulent récupérer de l'euro, ils vont perdre un petit peu. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu le problème aussi qui freine certains commerçants, j'imagine. Alors là, on en arrive aux questions désagréables. L'éole, il y a eu une crise, vous l'avez dit, la Covid n'a pas aidé, mais il y avait peut-être aussi une crise plus sur le fonctionnement, quels étaient les freins que vous avez constatés, vous, en tant que bénévole? Michel, je ne sais pas, comme vous êtes là depuis longtemps, c'est quoi le plus difficile en fait?
Alors, je pense que le plus difficile, oui, c'est de faire comprendre ce dont vous avez parlé à l'instant, que Myriam a bien expliqué, c'est l'intérêt d'une monnaie locale. C'est-à-dire que j'ai un petit peu le sentiment qu'il y a une part de la population qui voit assez vite, un petit peu intuitivement, que bon, tiens, ça leur parle, une monnaie locale, oui, ça sert à aller dans certains commerces, ça reste dans le territoire, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour garder les richesses le plus longtemps possible dans le territoire. Et c'est pas facile à expliquer aux personnes qui ont un fonctionnement plus classique avec l'euro et qui se disent pourquoi avoir une seconde monnaie dans mon porte-monnaie ou dans mon smartphone alors que j'achète déjà le plus possible du local, j'achète déjà le plus possible du bio, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus à moi et apporter de plus à l'économie. Donc c'est ce type de d'échanges qui sont le plus utiles pour la monnaie locale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parvient à convaincre les gens qu'une monnaie locale, ça n'est pas juste un moyen de paiement de plus, mais c'est quelque chose qui fait reprendre un petit peu de pouvoir à chaque citoyen par l'utilisation de monnaie qui reste dans le territoire, qui va en banque beaucoup plus tard que la monnaie classique, c'est-à-dire que à un moment, forcément, il y a des reconversions qui se font, on vient d'en parler un petit peu. Donc les commerçants qui n'ont pas pu dépenser tous leurs éoles nous demandent de les reconvertir en euros. Et à ce moment-là, on revient dans le circuit classique et bien souvent ces euros-là retournent en banque. Et le problème un petit peu du système bancaire classique, c'est que il utilise l'argent qu'il a en fonds pour des projets qui sont pas toujours très transparents, qui, d'après certaines ONG, hein, financent des choses un petit peu opaques à l'autre bout de la planète, qui portent bien souvent, toujours encore actuellement, sur les énergies fossiles et sur des choses de ce genre, malgré leur discours toujours très vert, bien sûr, parce qu'on est à une époque où il faut soigner sa communication écolo. Mais voilà, les faits montrent que les grandes banques classiques, et les banques françaises en particulier, je ne vais pas citer de nom peut-être, mais on les reconnaîtra, ont toujours un usage de notre argent qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on sait des grands enjeux de l'époque et de ce qu'il nous faut changer comme mode de fonctionnement en termes d'énergie, en termes de mobilité, en termes de relocalisation. Donc la monnaie locale, elle permet de garder cet argent dans le territoire, de le faire tourner dans le territoire et vraiment de le rendre aux banques le plus tard possible. Alors ça n'empêche pas que l'euro reste utile, hein. Attention, une monnaie locale ne vise pas à remplacer l'euro, mais pour une partie des achats qui peut se passer de l'euro, il est important de se dire, tiens, est-ce que je peux pas là utiliser l'éole? Ou quand on est dans une autre région française, la monnaie locale du coin, hein, il y a plus de 80 monnaies locales en France. Il y en a d'autres en Europe, hein, les Suisses sont très avancés là-dessus aussi, les Allemands, les Anglais. Voilà, tout le monde développe les monnaies locales parce que tout le monde se rend compte que c'est une alternative qui permet d'enlever un petit peu de l'énorme pourvoir qu'ont les banques sur nous, sur notre argent. Et puis, par ailleurs, ça évite évidemment toute spéculation, parce qu'on peut pas spéculer avec des éoles. tout simplement, on peut pas. Ça prend pas de valeur avec le temps. Au contraire, vous avez parlé de la fonte, le système de la fonte qui n'est pas souvent appliqué, parce que là aussi, il faut pouvoir l'expliquer aux gens et leur dire que leur argent, s'ils ne s'en servent pas, va perdre un peu de valeur. Bon, déjà que pas facile de diffuser l'idée d'une monnaie locale si on leur dit en plus que dans un certain délai il faut qu'ils le fassent tourner parce que sinon ça va perdre quelques pourcents, c'est pas facile. Donc l'éole n'utilise plus la fonte. Mais voilà, donc l'intérêt de la monnaie locale c'est ça, c'est sur l'aspect financier, économique, et puis c'est aussi beaucoup sur l'aspect sensibilisation à ce qu'est l'argent général. Et là, ça peut toucher des publics qui n'ont pas encore beaucoup d'autonomie financière, c'est-à-dire des enfants, des adolescents, qui ont déjà un petit peu parfois de l'argent dans les poches, et puis qui peuvent comprendre que l'intérêt d'une monnaie locale, c'est aussi d'acheter des choses dans les commerces de leur quartier, des commerces où ils n'ont pas besoin de prendre la voiture qu'ils n'ont pas encore pour y aller, voilà. Et ça leur fait comprendre qu'il y a plusieurs façons de payer et pas seulement la manière la plus répandue et qui paraît incontournable comme ça au premier abord. Voilà, vous voyez ?
Oui. On voit très bien. Alors là, on parle beaucoup du point de vue des consommateurs, mais après, du point de vue des commerçants, Myriam Nouri, alors par exemple, bon, un commerçant, c'est vrai que c'est mieux s'il peut payer ses fournisseurs en éole.
Oui, l'idée, c'est qu'ils puissent avoir aussi des échanges entre professionnels. Donc là, on est sur une taille en fait de réseau. Il y a toujours une question au début, si le réseau est petit, justement celui qui est en bout de chaîne, il a plus d'utilisation possible de sa monnaie locale. Et donc l'idée, c'est de pouvoir étoffer ce réseau, et c'est pour cela que le lien avec les commerçants et qu'ils l'acceptent est vraiment important, parce que c'est aussi de pouvoir faire remonter, de pouvoir identifier clairement ceux qui sont en bout de chaîne et qui n'arrivent plus à réutiliser leurs éoles pour voir, pour pouvoir après que l'association elle prospecte pour justement peut-être faire rentrer un autre fournisseur qui permettrait d'avoir une utilisation supplémentaire de l'éole.
Donc, fournisseurs ou prestataires.
Voilà, ou prestataires, oui, ça peut être aussi des artisans. Ouais. Et en ce moment, il y a aussi une réflexion d'avoir une monnaie régionale.
C'est vrai, voilà, tout à fait.
Au niveau Bretagne, donc qui pourrait aussi là, justement, répondre à cette difficulté de pouvoir avoir... parfois, on a un fournisseur qui n'est pas dans le département et donc qui permettrait aussi d'étoffer le réseau.
Ah oui, donc on pourrait s'échanger entre monnaies.
Ce que j'ai suivi, c'est vraiment en cours d'élaboration, et EOL suit ce projet pour aussi voir comment après il pourra s'intégrer dans cette... ce développement.
Ouais, cette collaboration entre monnaie locale bretonne. Je me souviens, c'est pareil, c'était avant la Covid, c'était un projet, puis ça s'est pas fait.
A priori, là, c'est en train d'être relancé, d'évoluer là-dessus.
Ouais. Et puis, il faut faire comprendre aux commerçants que ça peut leur amener peut-être de nouveaux clients aussi, les halls, c'est ça?
Oui, c'est aussi d'être mis en avant. Il y a un catalogue sur le site internet de l'association avec l'ensemble des commerçants, des prestataires qui l'acceptent. Donc, ça peut être aussi un moyen de se faire connaître. Là, avec les nouveaux bénévoles qui se sont mobilisés pour maintenir l'association, il y a aussi l'envie d'entre nous de faire des rencontres et justement d'aller dans les lieux qui acceptent les halls pour les mettre aussi en avant. Et ça aussi, ça fait de la communication pour eux et ça les fait connaître peut-être à d'autres publics.
Oui, c'est ça. Michel Tessier, quelles seront les conditions pour que l'éole puisse perdurer encore 10 ans, par exemple?
Alors, je pense que les conditions, c'est d'être le plus souvent possible sur des événements du type des marchés, des foires, des villages climatiques. Comment on appelle ça aujourd'hui un petit peu? Vous savez, à Brest, il y a
le village climat déclic, c'est ça.
Le village climat déclic, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui font leur propre village climat déclic ou qui font des choses qui ressemblent fort. Par exemple, on a été à Plouzané à l'automne. C'était vraiment quelque chose de ce type-là, avec beaucoup de stands sur toutes les initiatives comme ça qui permettent d'entrer plus vite dans la transition qui est nécessaire pour nos sociétés. Nous, à Landerneau aussi, en octobre, il y aura un événement comme ça qui est organisé par une association qui s'appelle Vert Demain. Et le thème sera celui des mobilités. Bon, on a été associé par eux sur ce qu'ils ont fait l'an dernier déjà, sur le thème de la transition.
Oui, on les avait reçus à la radio d'ailleurs. Ouais.
D'accord, ouais, c'est vraiment des initiatives intéressantes. Et moi, je crois que la condition, c'est que toutes ces initiatives-là... se parlent et agissent ensemble, parce qu'il me semble que trop souvent chacun est dans son type d'action et parfois qu'il a du mal à avoir un point de vue plus global sur le message qu'il faut faire passer dans les moments où on est en contact avec le public ou même avec des partenaires qui peuvent aider financièrement, des collectivités, etc. Je crois qu'il faut pas oublier que EOL, comme les autres initiatives de transition comme ça, ce sont des petites parties d'un tout, et qu'il faut vraiment avancer sur le commerce, les mobilités, sur l'usage de l'argent. Oui, la réflexion sur l'argent aujourd'hui qui permet des enrichissements tellement incroyables et qui prive le citoyen de son pouvoir de décider de ce qu'il veut pour son territoire. Donc je pense que ce qui fera que ça avancera dans le bon sens, à mon avis, c'est vraiment de multiplier la com, comme on dit, mais on n'est pas forcément les meilleurs en communication parce qu'on n'a pas énormément de moyens, mais à chaque fois qu'on a l'occasion, il faut vraiment qu'on communique et sur ce qu'on fait et sur les autres initiatives aussi qui sont faites dans ce domaine. Je pense, je parlais de l'ADES tout à l'heure, hein, le pôle de l'économie sociale et solidaire, mais je pense aussi au Lieu-dit, une association à Brest qui fédère comme ça toutes les initiatives de transition et qui en fait la promotion, qui propose des tas de choses autour de ça et qui fait vraiment connaître aux citoyens lambda tout ce qui existe déjà et qui permet de changer des habitudes en termes de déchets, en termes de mobilité, en termes de réparation. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui fera, si on se trouve tous aller dans le même sens, qu'une part plus importante de la population modifiera peu à peu ses habitudes et de manière volontaire et pas contrainte, quoi. C'est surtout ça qu'il faut éviter, c'est d'aller vers des contraintes. Il faut au contraire que chacun se dise, tiens, finalement, ça a l'air plutôt chouette et je vais essayer, c'est nouveau, ça me change et c'est plutôt joyeux comme forme de changement.
Puis on peut devenir bénévole pour l'éole, c'est sympa apparemment Myriam, c'est
oui,
ça.
Oui, moi j'aime bien être bénévole pour les associations.
Très bien, on ne peut que vous encourager, on va vous remercier à tous les deux parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission et puis bon, on va suivre ça et puis on vous reviendrez nous parler des nouveaux succès de l'éole. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.